Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être là devant vous. Et un bonjour tout particulier à ceux qui sont de passage. Je vois qu'il y a beaucoup de visages que je ne connais pas. Donc sentez-vous accueillis. Soyez les bienvenus parmi nous. Voilà, c'est un plaisir pour nous de partager ensemble, dans la présence de notre Dieu, ce temps de culte, ce temps d'adoration, ce temps où on exprime à Dieu notre louange, mais ce temps aussi où on se met à l'écoute du Seigneur. Voilà, André l'a dit en introduction, on va parler de la piété ce matin. Et c'est vrai que c'est un mot qui est un petit peu sorti de nos dictionnaires. La Bible en parle pas mal, mais dans notre langage courant, la piété aujourd'hui ne veut plus rien dire. Et puis, quelque part, on a préféré remplacer au mot « piété » le mot « spiritualité ». Enfin, dès que ça touche aux choses qu'on vit à l'intérieur de nous, dès que ça touche aux choses qui nous mettent en relation avec Dieu, on préfère parler de spiritualité. Et on a un petit peu évacué ce mot « piété » de notre vocabulaire. Alors, je vous propose trois questions. D'aborder ce thème, ce sujet que j'ai intitulé « Vivre aujourd'hui conformément à la piété » au travers de trois questions. Et on va les aborder les unes après les autres. Alors, pourquoi c'est important de parler de la piété? Alors, j'ai deux propositions à vous faire. Tout d'abord, André l'a dit, ça fait partie de notre projet de croissance. Vous qui nous visitez, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais cette année, donc en cette rentrée de septembre, on démarre ensemble tout un ensemble d'actions qui visent à grandir dans le Seigneur, grandir en qualité, grandir en quantité. C'est là notre objectif pour cette année et puis les mois à venir. Et on a défini avec les responsables d'église trois axes stratégiques sur lesquels on veut travailler. On a vu la semaine passée l'accueil. Ce matin, on va regarder ensemble pourquoi la piété, c'est un axe important à travailler dans nos vies. Et puis, les dimanches qui suivent, on va parler de l'édification et de la multiplication. Donc, c'est important qu'on en parle parce que ça fait partie de notre projet d'église. Mais c'est important, surtout et avant tout, parce que la Bible en parle. Et je vous propose de lire ensemble ce court texte dans l'épître de Paul à Tite. Paul écrit une lettre à Tite. Et là, je parle sous la surveillance des dames qui ont commencé l'étude de la lettre à Tite. Paul écrit une lettre à Tite. Tite, qui arrive dans la région de Crète, pour organiser les églises sur place. Un témoignage a été donné, des chrétiens se convertissent, et voilà qu'il faut organiser un petit peu les choses. Et Paul donne quelques consignes, quelques recommandations à son bien-aimé Tite concernant ce que c'est que la vie, ce que doit être la vie chrétienne. Je lis verset 11 du chapitre 2 de cette lettre que Paul adresse à Tite. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. On comprend bien qu'il est question de Jésus-Christ. Hein. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'était un érudit, c'était un théologien de haut vol. Mais l'apôtre Paul, il savait aussi se mettre au niveau de ses interlocuteurs. Et il savait très bien que les chrétiens de ces églises où Tite allait passer avaient besoin de concret, avaient besoin de choses pratiques. Il est question de ça dans cet épître et dans ces quelques versets que nous venons de parcourir. Paul y dit trois idées simples. Voilà ce que vous étiez. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Vous vous êtes converti à lui, vous vous êtes donné. Il s'est révélé à vous. Voilà ce qui vous attend, la gloire éternelle. On l'a chanté ce matin, notre espérance. Mais en attendant, c'est le verset 12, aujourd'hui, voilà comment il vous faut vivre, conformément à la sagesse, conformément à la justice, conformément à la piété. Moi, je vais insister sur la piété. Vous savez ce que c'est que la sagesse, la justice, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais on va regarder ensemble ce que c'est que la piété. C'est notre deuxième question. C'est quoi, en fait, la piété? On entend beaucoup de choses sur la piété. Des idées reçues, pour certaines, et puis d'autres qui ont le mérite d'être considérées. D'abord, voyons ce que la pitié n'est pas. Souvent, on associe et on dit que la pitié, c'est la foi. Or, ce n'est pas vraiment ça. Souvent, on dit que la pitié, c'est la dévotion. La piété, pardon. Merci. Mais ce n'est pas vraiment ça non plus. Souvent, on pense, on associe la piété avec le don de soi. Et même s'il y a de l'idée, ce n'est pas réellement ça. Je regardais un petit peu dans le dictionnaire, et c'est vrai que le dictionnaire ne nous aide pas beaucoup pour comprendre ce que c'est réellement la piété. Je lis juste ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. « Vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. » Dévotion, engagement fervent devant les devoirs et les pratiques de la religion. La pitié est à la fois la piété, je vais pas y arriver, la piété est à la fois amour respectueux pour les choses de la religion et respect des règles qui en sont les piliers. Vous voyez comme quoi on l'utilise pas souvent ce mot, j'arrive pas à le dire. Je vous propose deux définitions de la piété. D'abord, la piété, c'est un attachement. Vous savez, être attaché à quelque chose, c'est donner de la valeur à la chose. Être attaché à quelqu'un, c'est donner de la valeur à quelqu'un. Je prends un exemple. J'ai des objets auxquels je suis très attaché. D'abord, mon vélo, mon VTT. Je saurais vous réciter le descriptif, les spécifications de mon vélo par cœur. Voilà, mon vélo, il ne faut pas le toucher. Alors, mes enfants le savent bien, c'est mon vélo. J'y tiens beaucoup. Même si je n'ai plus beaucoup de temps pour jouer, j'ai à la maison deux guitares de Ovation. Attention, ils trônent au milieu de mon salon. Et il ne faut surtout pas que les gens touchent à mes guitares. J'y tiens énormément, j'y suis attaché. J'ai cette chose à laquelle je suis très attaché. J'ai du mal à m'en défaire. Au point que les copines de ma femme m'envoient des messages. Ils disent « Marcos, est-ce que tu pourrais dire à Sophie que je viens de lui envoyer un message ?» Elles savent pertinemment que c'est toujours à côté de moi. Ma famille compte énormément pour moi. Mon église compte énormément pour moi. Je suis prêt à me sacrifier pour les gens que j'aime. C'est ça l'attachement. Juste un verset. Et déjà, à l'époque de l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé. Voilà ce que dit Dieu par la bouche du prophète Osée. J'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance des dieux plus que les holocaustes. Le Seigneur cherche notre cœur. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire des sacrifices pour montrer à Dieu qu'on l'aime. On peut offrir des holocaustes. C'est ce que les Juifs faisaient à l'époque, pour montrer leur respect, pour montrer leur crainte, pour montrer à quel point ils étaient humiliés de s'approcher de ce Dieu créateur de toutes choses. Mais Dieu leur rappelle quelque chose d'essentiel au travers de ces mots. Moi, je veux vos cœurs. Ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous pouvez apporter qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est votre cœur. Et ce n'est pas simplement une partie de votre cœur, c'est tout votre cœur. L'attachement. Est-ce que ta vie, est-ce que ma vie, ce que je suis, ce que je fais, mes choix, mes projets, est-ce que ça reflète l'importance que je donne à Dieu? Est-ce que ça reflète mon attachement? La question que Dieu nous pose ce matin. Deuxième définition peut-être, qui démontre un peu ce que c'est que la piété. Une relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un disait, la piété est l'expression d'une juste relation avec Dieu. Mais c'est quoi une juste relation? Deux personnes qui s'apprécient, que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse ou dans le cadre d'une relation d'amitié, aiment passer du temps ensemble, à se parler, à s'écouter, à se connaître, à échanger. Parfois, la relation peut être superficielle, mais parfois aussi elle peut être profonde, véritable. Et vous savez quoi? L'homme est le seul être de la création à être capable de rentrer en relation avec Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et en préparant ce sujet, je suis tombé sur un article. Il est très intéressant. Je lis juste ce que ça dit, cet article, au sujet de la programmation neurobiologique. Si vous ne comprenez pas tout, je vous rassure, moi non plus, je n'ai pas tout compris. Il semblerait qu'il y ait de nombreuses recherches pour situer le lieu de la croyance en Dieu ont été réalisées et finalement couronnées de succès. Il semble que le besoin de l'être humain de connaître Dieu soit inné. Vous savez, les neurologues sont ceux qui étudient notre cerveau et puis les connexions qu'il y a à l'intérieur pour essayer de comprendre comment ça se passe, comment on réagit. Et il semblerait qu'on a une conscience relationnelle en ce qui concerne les choses de Dieu. Ils ont étudié dans différentes religions, ils ont étudié chez différentes personnes, des différents contextes, comment ça se passe quand ils rentrent en relation, ou en tout cas quand ils cherchent à rentrer en relation avec les choses de Dieu. Et les mêmes zones sont toujours activées. Le désir, la nostalgie d'une relation avec un être transcendant existe en chacun d'entre nous. Des fois, on dit, les gens, Dieu, ils ne s'intéressent pas. Ce n'est pas ce que les scientifiques viennent de prouver. Et ça me fait penser à ce verset. On lit en ce moment l'Ecclésiaste, avec un certain nombre d'entre vous. Et Salomon a dit, il fait toute chose belle au moment voulu. Il est question de Dieu. Et il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Il y a quelque chose en nous, c'est la pensée de l'éternité qui nous met ou qui nous donne la capacité de rentrer en relation avec Dieu. Vous savez, on vit dans une dimension multiple, quatre dimensions, on parle de la longueur, la largeur, la hauteur et le temps, Mais le temps dans lequel on vit est linéaire. Dieu nous donne la capacité de rentrer dans une dimension complémentaire, supplémentaire, qui est celle de l'éternité. Celle qui nous permet de voir les choses que nos yeux sont incapables de voir. Celle qui nous permet d'entendre, écouter des choses que nos oreilles sont incapables d'entendre. Ok. La piété, c'est un attachement. La piété, c'est une relation personnelle avec Dieu. Mais l'intitulé du message, c'est « Vivre aujourd'hui conformément à la piété ». Une fois qu'on sait ces choses, comment on fait pour les vivre? Toujours l'apôtre Paul a écrit plusieurs lettres à Timothée, un de ses disciples. Et dans une de ses lettres, il dit ceci, il lui dit « Exerce-toi à la piété ». L'exercice est la pratique, c'est la répétition, c'est un effort à produire pour arriver à quelque chose. Mais de quel exercice l'apôtre Paul parle ici, dans ce texte de 1 Timothée 4,7 ? Exerce-toi à la piété. Il le révèle de manière indirecte dans cette lettre qu'il adresse à Timothée, et je vous propose de découvrir trois aspects. Comment vivre cette pitié? Piété. Merci, merci de votre pitié envers moi. Vous avez compris, c'est la piété. La lecture de la Bible. Beaucoup de chrétiens pensent que l'intérêt de lire la Bible tous les jours est moindre. Ils se disent, de toute façon, l'Esprit de Dieu habite en moi et Dieu va se révéler, Dieu va me parler. Ils se disent, de toute façon, Dieu n'a pas attendu qu'on ait la Bible pour parler aux hommes. Donc, il y a bien un verset qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'est pas court en moyen pour nous parler. Et ils se disent finalement, peut-être que le dimanche matin, ça suffit comme temps pour lire la Bible ou étudier la Bible. Je vous montre juste un verset. L'intention de Dieu en ce qui concerne la parole de Dieu, sa lecture et le soin qu'on doit prendre à l'étudier. Ce texte est donné par la bouche de Moïse à l'intention des rois, ceux qui allaient venir. Et le roi, c'était un petit peu celui que tout le peuple observait, afin d'en prendre exemple. Et voilà ce que Moïse dit à propos du roi et du moment auquel il est intronisé. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Donc ça sert bien à quelque chose. Quatre enseignements qu'on peut tirer de ces versets. Lire la parole de Dieu, lire la Bible tous les jours, sert à produire en nous la crainte et le respect de Dieu. Lire la parole de Dieu, l'étudier, sert à observer ses commandements et apprendre à obéir pour les mettre en pratique. Lire la parole de Dieu sert à ce que nous restions humbles devant Dieu et qu'on ne se lève pas au-dessus des autres. Lire la parole de Dieu nous aide à bien compter les jours qui nous sont donnés, afin d'être heureux dans l'héritage que Dieu nous donne. Vous savez, je pense à Jésus. Ce ministère n'a duré que 3 ans. Et quand je mets bout à bout les différents événements qui sont relatés dans les évangiles, il a passé la plus grande partie de son temps à enseigner. C'est vrai, il a fait des miracles. Mais quand vous mettez bout à bout les événements de sa vie, il a passé la plupart de son temps à enseigner. Et je me pose la question, pourquoi ? Il aurait pu très bien passer son temps à faire du bien, à donner à manger à la foule, à guérir. Mais Jésus a décidé de consacrer, de donner la priorité de ses 3 ans de ministère à l'instruction. Vous savez quelle est la plus grande illusion que nous les chrétiens on vit ? C'est de penser qu'on peut plaire à Dieu, qu'on peut traverser le temps tout en restant comme on est. J'ai beaucoup le premier chant, merci André de nous l'avoir proposé ce matin, un nouveau chant, qui parle de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dieu, il nous transforme. Dieu, il nous change. Dieu, il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes. Il nous sauve. On en a parlé ce matin avec un frère. Et il veut nous amener quelque part. La Bible dit qu'un jour, Jésus marchait. Il rencontre Matthieu, assis à une table de péage. Et Jésus lui dit, suis-moi. Et le verset continue de dire, Matthieu se leva et le suivit. Est-ce que vous pensez que l'objectif de Dieu était simplement que Matthieu suive Jésus ? Non. Jésus avait un objectif pour Matthieu. Il voulait l'emmener quelque part. Il avait un projet pour lui. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Voilà l'objectif de Dieu. Nous changer, nous transformer. Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous savez, tout commence par la pensée. Et encore, Salomon dira en Proverbe 23, 7, « Votre vie est façonnée par vos pensées. » Et on comprend qu'on a besoin d'être instruit. On comprend qu'on a besoin d'être enseigné pour que Dieu renouvelle notre façon de penser tout d'abord, pour qu'après les actes puissent suivre naturellement. La pitié, c'est l'attachement à Dieu, on l'a vu. Et moi, je me pose la question ce matin, quelle est la valeur, quel est l'attachement que j'ai vis-à-vis de la parole de Dieu? Vous savez, c'est la chose la plus concrète de la révélation de Dieu, de la présence de Dieu dans ma vie. Quelle est l'importance que je lui donne? C'est mon héritage, c'est mon trésor. De le cas, ça devrait. J'aimerais vous lancer un défi ce matin. On s'est déjà lancé avec certains d'entre vous. Je vais faire la pub pour Jonathan. Vous vous rappelez de ça? Guide de lecture biblique. C'est super. Moi, j'ai démarré il y a 2 mois, un peu plus peut-être. C'est vraiment super. Et je me suis donné un défi. Lire au moins un chapitre de la Bible par jour. Ça ne fait pas beaucoup, hein? Un chapitre de la Bible par jour. Pour les courageux, vous pouvez lire 3 chapitres par jour. Il y a plusieurs options. Et pour ceux qui sont très très courageux, vous pouvez lire 4 chapitres par jour. Comme moi, je ne suis pas très courageux, je suis parti sur l'option 1 chapitre par jour. Et moi, j'aimerais vous lancer un défi. De nous rejoindre dans ce guide de lecture biblique. Pour que nous puissions ensemble lire la parole de Dieu. Si vous pouvez lire qu'un chapitre, c'est formidable. Si vous pouvez lire plus de chapitres, c'est encore mieux. Et vous savez, on a créé un groupe WhatsApp. Et puis, on se voit des encouragements. Et ça, c'est super. Vous savez, je suis touché de voir que je ne connais pas tout. Je suis touché de voir que Dieu va parler un tel, une telle, d'une manière différente de la manière dont il me parle. Et j'ai su encourager. Et chaque jour, je consulte mon groupe WhatsApp et je vois les commentaires passer. Et c'est formidable. Et puis je reçois aussi des encouragements qui me disent « Ah, bah, c'est super ce que tu as écrit, ça m'a touché, ça m'a fait du bien. » Alors si vous voulez rentrer dans cet encouragement, vous êtes cordialement invité à joindre ce groupe et à suivre ce guide de lecture biblique. Venez nous voir à la fin du culte si vous êtes intéressé. Pratiquement, deuxième point qu'on peut rattacher à la prière, un exercice tout à fait pratique, la prière. Un jour, les disciples de Jésus sont venus le voir et lui ont demandé « Apprends-nous à prier ». Vous savez, moi je suis mal placé pour parler de la prière. Personne n'est encore venu jusque-là me voir pour me dire « Marcos, apprends-moi à prier ». Je ne suis pas un homme de prière. Enfin, je ne me considère pas comme un homme de prière. Mais le fait est que les disciples sont venus voir Jésus et lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Et vous savez, c'est le passage où Jésus va apprendre à ses disciples le Notre Père. Et je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas demandé à Jésus « Apprends-nous à prêcher » ou « Apprends-nous à marcher sur l'eau » ou « Apprends-nous autre chose ». Ils ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Les disciples avaient observé Jésus. Ils avaient vu Jésus dans ses moments de prière. Ils avaient constaté que quelque chose de spécial, quelque chose de particulier se passait au moment où il était en communion avec son Dieu. Ils avaient vu que Jésus ne priait pas comme les pharisiens. Ils avaient vu que Jésus ne priait pas comme les autres religieux. Ils avaient remarqué que quelque chose de différent se passait à ce moment-là. Juste deux versets. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Waouh! Toute une nuit à prier Dieu. Quand il eut renvoyé la foule, il venait de passer une journée chargée. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul avec Dieu. Quelle intensité! Quelle communion! Moi, ça me fait envie. S'il y a quelque chose qui me surprend dans la vie de Jésus, dans son ministère terrestre, c'est la disponibilité qu'il avait pour les gens. Il devait avoir un agenda overbooké comme ça. Mais si quelqu'un l'approchait, si quelqu'un venait le solliciter, si quelqu'un l'interpellait, si quelqu'un lui parlait, Jésus avait toujours le temps de s'arrêter et se laisser approcher. On manque tous de temps. Tu sais, au travail, je suis obligé de me faire une to-do list, tu sais, les choses qu'il faut faire dans la journée. Et non seulement je dois faire des to-do list, mais en plus je dois les trier par priorité, par ordre d'urgence, sinon je n'y arrive pas. Et je sais que vous, c'est pareil. On a 10 000 trucs à faire dans la journée. Et on a du mal à trouver du temps à donner au Seigneur pour vivre ces moments de prière. Et on est venu à faire des listes de commissions. Et puis, on prend du temps, on dit, Seigneur, voilà, Seigneur, je te prie pour ça, je te prie pour un tel, je te demande de donner ça à un tel, et s'il te plaît, interviens là. Et puis voilà, c'est fini. Dieu veut notre cœur. On l'a vu. Dieu veut rentrer en relation avec nous. Je me rappelle, je vais parler de mes enfants, désolé les gars, je vous mets mal à l'aise. Quand ils étaient petits, j'arrivais à la maison après le travail, et puis ils étaient là, ils jouaient, et puis ils étaient avec leur voiture et les petits soldats, et puis c'était intense, ils se faisaient leur film. Et j'arrivais, je rentrais dans ce contexte de jeu, et puis ils me parlaient, je disais, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis on joue, et puis c'est l'histoire, voilà, et puis est-ce que je peux jouer avec vous? Mais bien sûr. Et puis on passait des longues minutes, voire des heures, à parler, à être là, ensemble. Et ils me racontaient leur journée, je racontais la mienne, et puis c'était super. On prenait du temps ensemble. Et puis ils ont grandi, ils sont devenus plus ou moins adultes. Ah, j'ai pas voulu dire ça, hein. Je comprends maintenant. Et puis avec leurs occupations, l'école, le travail, les amis, les activités, les loisirs, ben ils sont devenus comme moi, overbookés. Et maintenant, on fonctionne un peu comme avec cette liste de commission. Oui, bonjour papa, tu n'aurais pas 50 francs à m'avancer. Allô papa, il n'y a plus de bus, est-ce que tu pourrais venir me chercher? Je suis à la gare. Et j'ai un peu la nostalgie. J'ai un peu la nostalgie de ces temps d'autrefois où on pouvait avoir des moments ensemble, du temps où on pouvait simplement parler, échanger, vivre des choses ensemble. Mais je ne dis pas que maintenant, il n'y a pas du tout, ça n'existe plus. Je dis juste que c'est plus rare. Et vous savez, je pense à Dieu et à ma relation avec lui. Et je me dis que souvent, Dieu doit être attristé en ce qui me concerne, avec le peu de temps que je lui consacre pour vivre un moment de communion, un moment de relation, un moment d'intimité avec lui. Et ça m'attriste. C'est un signe, il faut bientôt que je m'arrête. Oui, on est devenu sourd, on est devenu aveugle, et on passe à côté de l'essentiel, parce qu'on n'a plus le temps d'être avec Dieu. Alors j'aimerais vous lancer un défi, me lancer un défi à nouveau. Il n'y avait pas des copyrights pour les défis, Jonathan, rassure-moi. Bon, ça va. Je vous propose de passer 10 minutes par jour. Ça ne fait pas beaucoup, 10 minutes. Hein. On va essayer de tout faire pour passer au moins 10 minutes par jour en relation avec Dieu, dans la communion, par la prière. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre dans ce défi? On a créé un autre groupe WhatsApp où on s'échange de sujets de prière. On s'échange des encouragements. Parce que souvent, je dois l'avouer, je suis à court de sujets d'intercession ou de reconnaissance. Ben voilà, ce groupe, c'est une aide, un moyen. Là aussi, si vous voulez nous rejoindre dans ce groupe WhatsApp, venez nous voir, venez nous dire. Et puis on va s'encourager mutuellement à tenir bon dans ces 10 minutes quotidiennes. Et puis, troisième élément de réponse, c'est le témoignage personnel. Vous avez toute l'histoire de la Bible, depuis la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'histoire du témoignage que Dieu donne à sa créature, à son peuple, à ses enfants. Dieu, il témoigne de son amour, Dieu, il témoigne de sa miséricorde, de son pardon, de la grâce qu'il nous fait. Et à notre tour, on est appelé à imiter Dieu. Juste un verset un verset que Paul écrit aux Corinthiens. Ce verset qui dit « Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, une lettre écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Quelqu'un a dit qu'il y a 5 évangiles. Vous avez toujours certainement entendu parler que dans la Bible, il n'y a que 4 évangiles. Mais lui, il disait, il y en a 5. Il disait, ben voilà, il y a l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, il y a l'évangile de Jean, et puis il y a vous. Ça, c'est le 5e évangile. C'est chacun d'entre nous. Vous savez, quand je vis, quand je parle, quand j'ai une attitude, quand je fais quelque chose, je suis en train de refléter Dieu. Chaque moment de ma vie, chaque choix que je fais, c'est un témoignage vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je suis conscient que je suis cette lettre ouverte dont parle l'apôtre Paul, et que tout le monde me lit? Ma famille, mes voisins, mes collègues de travail, ils sont là. Ils sont en train de lire le témoignage de Dieu. Et je dois avouer que parfois j'ai honte de certaines choses que j'aurais pu dire, de certaines choses que j'aurais pu faire et qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. Alors Dieu nous encourage à avoir une attitude de vie. Dieu nous encourage à avoir des paroles. Dieu nous encourage à agir conformément à ce qui lui rend gloire et qui lui fait plaisir. Et on arrive au 3e défi. Et celui-là, il est moins ambitieux. J'ai pensé à moi. Je vous propose de prier et de faire en sorte de rechercher à pouvoir témoigner à une personne dans la semaine. Chaque semaine que le Seigneur nous donne de vivre, donc aujourd'hui commence une nouvelle semaine, recherchons et prions pour que Dieu nous donne des occasions de témoigner de lui. Il nous renouvelle, il nous donne une position d'enfant alors qu'on était esclave. Il nous met en sa présence. Dieu nous appelle à la gloire, ça c'est ce qui nous attend. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est pas demain ou après-demain, c'est aujourd'hui, il nous appelle à vivre conformément à la piété. On a vu que la piété, c'est l'attachement de Dieu à Dieu. On a vu que la piété, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et puis on a vu ces 3 défis. Écouter Dieu par la lecture de la parole. Parler à Dieu par la prière. Témoigner de Dieu aux autres. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous donne de pouvoir vivre selon ce qui lui fait plaisir. Je vais simplement prier et je laisse la parole à André. Seigneur, merci pour ce temps que nous venons de vivre ensemble. Merci parce que ta parole nous parle, parce que ta parole nous interpelle. Merci parce qu'elle est réellement ce trésor que tu nous as confié. Et Seigneur, on a vu ce matin que tu veux nous transformer, que tu veux créer en nous non seulement des nouveaux cœurs, mais tu veux faire de nous de nouvelles personnes. Tu veux nous transformer de gloire en gloire, en la même image, celle du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens accomplir ton œuvre dans nos vies. Aide-nous à vivre conformément à la piété. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.